On est maître sur RFI à 13h40.
Un sol majeur.
Un sol majeur.
Bienvenue au pays du Parsicola, la boisson préférée des Iraniens. Le pays des contrastes où l'on croise autant des gardiens de la révolution zélés que des féministes islamiques. Autant cette bourgeoisie ultra maquillée qui rêve de Porsche que l'homme de la rue qui rêve de tuer un jour de ses propres mains un ayatollah quel qu'il soit. Ça donne qui a tué l'ayatollah Kanouni, un polar signé Nahiri Napétian. Alors, je sais pas finalement si vous êtes une fan de Simenon, qui est vraiment la référence en matière de polar. Mais pourquoi est-ce qu'une journaliste française, car au fond vous êtes une journaliste française, hein, j'ai même vu que vous aviez enquêté notamment sur les jeunes en usine, les jeunes de Seine-Saint-Denis je crois, pourquoi vous avez eu envie de signer un polar qui se passe en Iran ?
Alors j'avais peut-être envie de tuer l'ayatollah Khamenei. Je me suis interrogée et je pense qu'il y avait quand même une part un peu un désir de me venger de tout ce que j'avais subi à cause de ces ayatollahs qui étaient venus au pouvoir et qui avaient bouleversé ma vie. Il y a aussi le fait que le polar est un bon moyen de faire visiter un pays, une ville surtout. Je pense que Téhéran est vrai, est le personnage principal de mon roman. Et puis j'aime beaucoup aussi la forme d'enquête. Ça m'a permis à travers ce roman et notamment à travers le personnage de Narek de faire vivre une espèce d'enquête personnelle sur ce personnage de Narek et ses racines.
De vous faire vivre, quoi.
Oui, oui, oui.
Alors, c'est vrai que c'est un roman politique, oui. Pratiquement, hein, puisqu'il raconte la terrible répression des religieux vis-à-vis de tous les opposants au régime, hein, qu'ils soient marxistes, nationalistes, laïcs, voilà. Ça raconte aussi les rivalités internes du pouvoir islamiste. Hein. C'est pas du tout une vision manichéenne que vous proposez. Mais est-ce que, alors, je me posais la question, est-ce que retourner en Iran après ce livre va être possible pour vous ?
J'avoue que j'ai pas essayé. j'ai pas essayé de le faire. En effet, je me suis posé la question avant de l'écrire. Et non, je
vous êtes inquiète ou pas?
Tant que je suis en France, tout va bien, mais j'ai pas. Et j'ai voulu y retourner juste avant la parution du livre. Et là, je me suis retrouvée confrontée à quelque chose d'un peu difficile, qui est que je voulais un visa pour mon fils. Et que je ne suis pas mariée avec le père de mon fils. Et là, à l'ambassade, ils m'ont vraiment regardée très bizarrement. Et ils ont commencé à me dire que ça allait être très difficile.
Nahiri Napétian, alors là où on sent que vous êtes très cosmopolite et donc peut-être très iranienne d'ailleurs, ce serait peut-être ça la définition d'identité iranienne, je ne sais pas, c'est quand vous programmez une chanson des Talking Heads pour un sol majeur, Psycho Killer. Mais qu'est-ce que c'est? Comment vous avez découvert cette chanson et pourquoi vous aimez cette chanson?
Elle est très drôle, je la trouve très très drôle. Elle est, en plus, elle fait un peu référence au polar. Elle est pleine d'ironie, donc je pense que c'est ça qui me plaisait.
Talking Heads dans le programme en sol majeur de Nahiri Napétian avec Psycho Killer.
I can't relax, I can't sleep.
qu'est-ce que c'est? The Talking Heads en sol majeur dans le programme de Nahirina Apetian, née en 1970 en Iran de parents arméniens et installée en France depuis la révolution islamique. Alors est-ce que ça aboutit à une révolution linguistique? Question en sol majeur.
Quels sont les mots que vous ne pouvez dire que dans votre langue maternelle?
Alors, ma langue maternelle, c'est l'arménien. J'ai été confrontée à la question de la transmission récemment avec la naissance de mon petit garçon qui a un an et demi. Et c'est vrai qu'il y a, j'ai beaucoup de mal à ne lui parler que arménien, pour qu'il soit bilingue comme je l'ai été. J'ai vraiment beaucoup de mal, mais il y a quand même des mots, par exemple le mot Jana, chérie. C'est vrai que quand il m'appelle, quand il est vraiment très malheureux, ce mot revient quoi. Je le prends dans mes bras et je lui dis Jana. C'est vrai. Après, il y a eu des choses surprenantes aussi. Quand il était tout petit, tout bébé, j'avais des mots persans qui me revenaient.
Ça ne fait pas partie de votre langue maternelle?
Alors, ma langue maternelle est l'arménien, mais c'est vrai que j'ai toujours été bilingue. En Iran, j'étais bilingue en arménien et en farsi, en persan. Quand je suis arrivée en France, j'étais bilingue en arménien, puisque c'est la langue qu'on continue à parler à la maison avec ma mère, et en français. J'ai complètement occulté le persan. Je l'ai oublié pendant une quinzaine d'années. Quand je rencontrais des Iraniens, je comprenais tout ce qu'ils me disaient, mais j'arrivais pas à leur répondre parce que j'avais le sentiment, je pense que c'était un blocage, j'avais le sentiment d'avoir perdu la musique du farsi. J'avais l'impression que j'allais leur répondre en émettant des fausses notes, quoi. Que c'est cette langue très musicale qui est le persan, je pensais en avoir vraiment, perdu la musique. Alors, plusieurs années après, quand je suis retournée en tant que journaliste en Iran, j'ai repris des cours. La langue m'est revenue quasiment d'un coup, quoi, comme si elle était là en sommeil dans mon cerveau. Et j'étais très heureuse de la retrouver. Et puis bon, aujourd'hui, je pratique quand même assez peu. Mais quand je parlais à mon petit garçon, j'avais envie de l'appeler monsieur. Alors je lui disais
Votre roman et cette question de la langue pose une vraie question qui, je suppose, vous taraude, Nahirina Apetian, à savoir comment être arménien quand on est aussi persan. Est-ce que dans votre tête, c'est un peu une bataille de nationalisme orangé, si j'ose dire?
Alors, c'est vrai que je me suis beaucoup interrogée sur l'identité arménienne, qui est une identité qu'on m'a transmise, donc je vous l'ai dit au début de l'émission, depuis des millénaires, et puis cette langue aussi qu'on m'a transmis et dont je me dis, mais est-ce que ça va s'arrêter avec moi? C'est quand même une lourde responsabilité. Et puis j'ai quelqu'un m'a raconté un jour une histoire juive qui m'a apporté beaucoup de sérénité. Alors je vais vous la raconter. Donc c'est l'histoire commence comme ça. Donc j'avais mon arrière-grand-père vivait à côté dans un shtetl, à côté d'une forêt. Il avait l'habitude d'aller toujours au pied d'un arbre, toujours le même, et de réciter une prière toujours la même. Mon grand-père a quitté le shtetl, mais partout où il allait, il trouvait une forêt et un arbre, et il récitait cette prière toujours la même que lui avait transmise mon grand-père, enfin son père. Mon père, qui vivait en ville, connaissait toujours la prière, mais il n'avait plus d'arbre au pied duquel réciter sa prière. Et moi, aujourd'hui, j'ai oublié la prière, mais je vous raconte cette histoire. Et c'est une histoire qui vraiment m'a soulagée d'un grand point, en fait, le jour où je l'ai entendue, parce que je me suis dit, mais en fait, la transmission, c'est pas quelque chose qu'on est obligé de faire de manière brute comme ça. ça, même si mon fils, je ne lui dis que des mots de temps en temps en arménien, je lui transmets quand même quelque chose.
Écoutez, cette archive en sol majeur devrait vous rappeler quelque chose.
L'Iran a vécu tout à l'heure, à 9h40, 7h10, heure de Paris, son moment historique. C'est à ce moment-là que l'ayatollah Khomeini, après 15 ans
Pour nous, le départ du Shah n'est qu'une première étape. Il reste devant nous de nombreuses difficultés. Notre peuple doit savoir que le départ du Shah n'est pas une victoire, c'est le prélude d'une victoire. Je félicite le peuple iranien plus d'avoir obtenu l'élimination du pouvoir étranger en Iran que d'avoir obtenu le départ du Shah.
Mir Hossein Mousavi, le candidat réformateur, s'est dit prêt au martyr et veut continuer le combat.
L'opposant qui estime que la victoire lui a été volée réclame une fois encore l'annulation du scrutin du 12 juin.
La police anti-émeute a réprimé la protestation interdite à coups de matraque, de gaz lacrymogène et de canons à eau. Des témoins ont même entendu des tirs.
Alors Nahirina Apetian, vous avez voulu mettre en perspective ces deux temps forts de la politique iranienne, 1979-2009. Pourquoi ?
Parce que 30 ans après, on a vraiment cru assister de nouveau à une révolution en Iran. Alors on a assisté à ce mouvement populaire qui était quand même très exceptionnel, puisqu'on a vu des millions de gens descendre dans la rue silencieusement. C'est un mouvement qui a été réprimé, mais allez savoir ce que ça va donner. Moi, à chaque fois que je vais en Iran, je suis très étonnée par le contraste entre le mode de vie des Iraniens, leur modernité, et la loi islamique qui pèse sur eux et qui est surtout absurde, quoi. Et je à chaque fois je me dis mais c'est pas possible, une contradiction pareille, ça peut pas durer.
Donc pour vous, 4 mois après ce mouvement de contestation, vous pensez qu'on assiste un peu à l'échec de l'idéologie instaurée par Khomeini, ou pour le dire autrement, qu'une grande partie des Iraniens ne pensent pas que l'élection d'Ahmadinejad soit ce qu'on peut appeler un miracle divin?
Alors, il a vraiment, à moins que la fraude soit un miracle divin, non, c'était vraiment une
non, mais est-ce que la République islamique est en train de chanceler véritablement?
Alors, c'est ce que je me suis dit. D'un autre côté, c'est vrai qu'il n'y a pas pour l'instant d'alternative hors de la République islamique, puisque Mir Hossein Mousavi lui-même est un homme du sérail, un réformateur. Si les réformateurs arrivaient aujourd'hui à venir au pouvoir, je pense qu'ils seraient dépassés par le mouvement populaire qui s'est constitué derrière. Pour l'instant, on a surtout assisté à la répression de ce mouvement-là.
Il y a quand même une larme d'espoir, je dirais. Lily Boniche, l'homme des rumbas et du Shahabi algérois, est dans votre programme. Nahirina Apetian, c'est peut-être votre côté définitivement méditerranéen. Vous aviez envie d'écouter l'oriental.
Oui, alors c'est une chanson qui me rappelle un souvenir très précis. Je me suis installée à un moment dans le quartier de la Goutte d'Or. En sortant d'une visite d'appartement, j'ai entendu cette chanson et puis j'étais dans ce quartier. Et je me disais, mais en fait, je suis chez moi ici.
Lily Boniche dans le programme en sol majeur de Nahirina Apetian.
Et on m'appelle l'Oriental, Ana Wahad, sentiment pâle. Et on m'appelle l'Oriental, Ana Wahad, sentiment pâle. Et ça a pris un peu de chaleur. On la tient belle. Cependant, je ne fais pas de mal. On m'a surnommé l'Oriental. كومباني كنت صغير ما كنتش نعرف واش تعب عندي نحب نعشق جيم لا ميوزيك اي لو شان جو تروف سولا اي باتان سو كون بونس دو موا سا ميت ايغال كار جو سوي ان اورينتال اي او بابيل Sentimental, eu me perco a tua sentimental. Isabel, Bachar, Isabel, la tchabé, mais cependant, tu n'es pas là. On m'a surnommé l'Oriental.
Dans le programme de notre invitée Narina Pétian, qui voulait rajouter un petit commentaire personnel sur cette chanson.
Oui, sur tout ce quartier à Barbès où j'habitais. En fait, quand je suis rentrée en Iran, j'ai retrouvé mon amie d'enfance à qui j'avais confié toutes mes bandes dessinées avant de partir en lui disant tu les gardes bien au chaud pour le jour où je reviendrai pour me rendre mes Tintins en farci, etc. Et donc j'ai retrouvé cet ami qui aujourd'hui vit en France, et quand il est arrivé à Paris et qu'il est venu me retrouver et que j'habitais dans ce quartier de Barbès, il m'a dit mais c'est comme ça Paris, mais on dirait Téhéran. Il était très étonné par cette vision de Paris, voilà.
Et quelques voiles islamiques et quelques taxis collectifs auront suffi, c'est ça?
Absolument, et un peu de circulation et de bruit.
Nairina Apetian, donc une Française qui a fait la paix avec ses origines arméniennes et iraniennes.
Quelle est votre ville de cœur?
Alors, Téhéran, qui est le personnage principal de mon roman, reste vraiment ma ville, quoi. À chaque fois que je rentre, j'ai pour habitude de prendre un taxi collectif et de descendre du nord aisé de la ville, qui se trouve comme ça à flanc de montagne vers le sud populaire, et on a vraiment le sentiment de descendre dans les bas quartiers. Et c'est vrai que dans les taxis collectifs, on entend tous les gens parlent avec une grande liberté de politique. Ils râlent contre le régime. C'est un très bon baromètre pour prendre la température politique au moment où on rentre en Iran.
Petite question, Nairina Pétian, quand vous arrivez à Téhéran, vous êtes obligée d'abandonner votre tenue européenne?
Oui, je mets l'uniforme islamique, absolument.
Alors, comment vous vous sentez à ce moment-là?
Alors,
car la révolution du foulard, vous ne l'avez pas vécue, vous, de l'intérieur.
Non, tout à fait. C'était même un des slogans de ma mère. Ma mère me disait toujours, mais on fuit le foulard, on a fui le foulard, etc. Moi, je suis pas... C'est un symbole ambivalent qu'on diabolise beaucoup en Occident. Après, c'est vrai que cet uniforme islamique a été le moyen pour le régime d'imposer un système très très oppressif, mais je sais qu'il y a eu des études sociologiques qui ont montré que cet uniforme moderne a permis notamment à beaucoup de femmes des milieux traditionnels qui portaient le tchador, qui est le costume traditionnel qu'elles sont obligées de tenir avec la main, donc pour beaucoup de femmes ça a été le moyen d'abandonner le tchador, et beaucoup de femmes des milieux populaires ont aussi réussi à marchander en quelque sorte le fait qu'elles portaient l'uniforme islamique pour gagner des droits vis-à-vis de leur mari, de leur père, en disant voilà, mais vous pouvez pas nous empêcher d'aller à l'université, de faire des études, de faire de la politique puisqu'on porte le voile islamique.
Mais vous, Nahiri, vous n'avez pas besoin de vous battre pour votre émancipation et votre liberté. Comment vous vous sentez? Vous m'avez pas répondu à cette question. Sous ce foulard islamique, vous, la française.
Oui, le costume islamique thermique, moi, ça m'a jamais vraiment traumatisée de le porter en Iran, parce que je sais que c'est provisoire, voire même j'adopte un costume islamique très très strict, enfin toujours un imperméable strict, un foulard de couleur sombre, parce que je veux pas avoir de problème.
Parce qu'il y a des foulards très très affriolants.
Hein. Et habituellement, mes cousines me regardent en me disant, mais pourquoi tu t'es mis comme ça? Parce que les Téhéranaises ont-elles pris l'habitude de détourner complètement ce symbole qui n'est pas univoque, comme je vous le disais tout à l'heure, et en ont fait un accessoire de mode qui peut être souvent très excentrique.
Bon, ville contrastée où l'on peut rencontrer, effectivement, ce n'est pas une lubie d'auteur, des féministes islamiques.
Oui. J'en ai rencontré.
Qui se présente aux élections présidentielles. Hein, c'est un personnage de votre roman, une certaine Leila.
Qui est inspirée de vraies féministes islamiques que j'ai rencontrées en Iran. J'ai rencontré des féministes laïques qui m'ont dit, mais il faut que tu rencontres aussi des féministes islamiques, elles ont des choses à dire.
Alors, il y a un autre son qui évoque votre Téhéran à vous, Nahirine Apetian, c'est ça. شهر خاموش دلم رو تو پر آغاز کردی آتش این عشق کافه دیگه خاکستری بود اومدی وقتی تو سینه نفس آخری بود عشق تو زنده بود. Oui, ça saute et ça grésille, c'est normal. C'est un son un petit peu piqué sur Internet. C'est une chanteuse de variété des années 70 qui s'appelle Gougouche.
Absolument, qui était très populaire sous le Shah, qu'on voyait toujours avec des robes à paillettes, d'immenses décolletés, etc. Qui, au moment de la Révolution, s'est ralliée à la Révolution. Elle a même écrit une chanson à la gloire de Khomeini, qui, une fois arrivée au pouvoir, a immédiatement interdit aux femmes de chanter. Donc, elle est restée quelques années en Iran, notamment par fidélité à ses idées révolutionnaires. Et puis, au bout d'un moment, je crois qu'aujourd'hui, elle a immigré aux États-Unis. Et ce thème des femmes à qui on a interdit de chanter, le thème central de mon prochain roman qui est en cours d'écriture, parce que c'est pareil, on a tous les paradoxes iraniens là-dedans, parce que évidemment, c'est interdit et respecté notamment dans les films qui viennent jusqu'ici en France. J'ai vu récemment à propos d'Elie, vous remarquerez que les hommes chantent mais jamais les femmes. Et en même temps, quand je prends un taxi collectif à Téhéran, qu'est-ce que j'entends dans le taxi collectif? Gougouche.
À suivre sous votre plume et puis à retrouver sans doute, ce sera une pépite sur notre blog.
En sol majeur, @rfi.fr.
Et puis notre Facebook et notre blog vous attendent, deuxamours.blogs.rfi.fr, pour y déposer vos témoignages sur la double culture. On les attend de façon gourmande. Merci Nahiri Nahapetian. Comment est-ce qu'on dit merci et bonne route en persan et en arménien pour voir?
Reini Mamnoun en persan et puis Khodorofes pour dire au revoir, et en arménien on dit Stestun pour dire au revoir.
Je rappelle que votre roman qui a tué l'Ayatollah Khamenei est sorti aux éditions Liana Levy. Et puis, on va pas se quitter. On se quitte, oui, avec une petite chose inattendue. Bien joué, Nahiri, celle de Nick Cave, artiste pluridisciplinaire australien, avec The Carney. Je vous embrasse en français.
Caravan.